Voici le journal. Stéphane Leneuve. Bonjour Stéphane.
Bonjour Pierre, bonjour à tous. En perte de vitesse dans les sondages, quoi de mieux qu'un retour à la bonne vieille communication télévisée? Emmanuel Macron en direct ce soir à 20h sur TF1, une heure pour convaincre sur les dossiers du moment et effacer l'image d'un président pour les riches. Harvey Weinstein exclu de l'Académie des Oscars à Hollywood, décision prise cette nuit. Scandale à Hollywood dont on parle beaucoup aussi à Lyon à l'occasion du Festival Lumière. Le festival est ouvert depuis hier soir. La Cité de l'Espace à Toulouse fête ses 20 ans. 20 000 personnes attendues aujourd'hui à l'occasion d'une après-midi portes ouvertes. Et puis dans le journal des sports, Laetitia Bernard reviendra sur le deuxième combat et la deuxième victoire professionnelle pour Tony Yoka et le bon résultat des clubs français en Coupe d'Europe de rugby. Ce sera donc une grande première ce soir pour Emmanuel Macron. Jamais depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, le président de la République n'avait répondu à des questions de journalistes sur une chaîne de télévision. 20h en direct de son bureau de l'Élysée sur TF1 et LCI. Chute de popularité oblige, Emmanuel Macron effectue un grand virage sur l'aile dans sa communication. Sur le fond, Julien Langlais, ce sera aussi un moment de pédagogie sur les réformes à venir et en cours.
En rugby, on appellerait ça un retour aux fondamentaux. Après la parole rare et contrôlée, mais multidiffusée sur les réseaux sociaux, les entretiens au compte-gouttes, à la PQR ou sur les télés étrangères, après les journalistes lors des déplacements qu'on a laissé choir, place au bon vieux 20h du dimanche soir. Un moment de pédagogie nécessaire dans une étape charnière, explique l'Élysée. Pédagogie sur les réformes lancées, loi travail, budget et celles à venir comme l'assurance chômage, la formation professionnelle ou bien l'Europe et son avenir. Une heure d'entretien aussi pour permettre à Emmanuel Macron, même si le château s'en défend, de rectifier cette image de président des riches qui imprime doucement dans l'opinion, d'expliquer sa politique, revenir sur ses déclarations polémiques, mal comprises selon le chef de l'État. « Je ne suis pas arrogant », a-t-il déclaré dans un hebdomadaire allemand, avant d'ajouter « Je suis déterminé ». Déterminé aussi ce soir à renouer le lien avec les Français qui s'est un peu distendu et d'envoyer quelques signaux à gauche, cette gauche qui l'a aussi élu et qui se plaint aujourd'hui de ne pas être suffisamment entendu.
Toujours au chapitre politique, à retenir les petites phrase politique dominicale, c'est d'abord Nicolas Hulot, toujours aussi déterminé à interdire le glyphosate, cet herbicide classé cancérogène. « Je ne recule jamais », explique le ministre de la Transition écologique dans le JDD. Et puis toujours dans le JDD, mais dans un autre registre, Manuel Valls lance aux Catalans et à la Catalogne, son pays de naissance, que l'idée d'une sécession est une impasse.
8h03, Stéphane Leneuf, en 90 ans d'existence, l'Académie américaine de cinéma n'avait exclu qu'un seul de ses membres.
Eh bien désormais, ils sont deux. Harvey Weinstein a pris la porte. Cette nuit, les 54 membres du conseil d'administration ont décidé à une large majorité d'exclure le producteur accusé par une trentaine de femmes de harcèlement sexuel et de viol. L'affaire Harvey Weinstein continue de secouer le monde du cinéma outre-Atlantique, mais aussi en France, où plusieurs actrices ont dit avoir été abusées par le producteur américain. Et hier soir, à l'ouverture du 9e Festival Lumière à Lyon, le sujet était sur toutes les lèvres. Le reportage de Claude Cordier.
Il y a eu un communiqué du Festival de Cannes. Et nous en tenons là.
Si Thierry Frémaux, directeur des festivals de Cannes et Lumière, n'en dira pas plus, les artistes invités hier soir ont été plus prolixes, à commencer par les actrices présentes au Festival Lumière, Michel Larocque.
Il n'y a pas que le cinéma, je veux dire, dans tous les milieux, il se passe ce genre de choses, donc c'est vraiment bien quand des gens connus disent « oui, ça m'est arrivé et il faut que ça cesse ».
La réalisatrice Danielle Thompson avait travaillé avec Harvey Weinstein.
Vous savez, on ressent un petit peu ce qu'on ressent quand on voit tabasser un coupable. On se dit qu'il est coupable et on est très mal d'assister au tabassage.
Gérard Jugnot le connaissait.
J'ai rencontré plusieurs fois moi, quand on faisait les choristes, mais le personnage était ce qu'il était, mais bon, tout le monde se réveille, c'est ça qui est étrange. Quoi.
Je suis étonnée de la réaction des hommes qui sont étonnés que les femmes puissent mettre du temps à parler.
Marina Foïs.
Qui comprennent mal le sentiment de honte, le problème de la domination masculine, enfin tout ça. C'est la réaction des hommes qui me surprend en fait.
Eddie Mitchell, invité d'honneur de la soirée d'ouverture du Festival Lumière.
Que soyez que ça inspire du dégoût, que du dégoût.
Malgré tout, hier soir à Lyon, The Show Must Go On. Lyon, Claude Cordier, France Inter.
L'Autriche vote aujourd'hui, élection législative qui pourrait porter au pouvoir un jeune chancelier de 31 ans, Sébastien Kurz, à la tête du parti conservateur, et crédité d'une large avance, 33% d'intention de vote. Il pourrait faire alliance avec l'extrême droite pour composer son gouvernement. Ce matin, c'est encore la confusion qui règne à Raqqa, la capitale de l'État islamique. La ville pourrait tomber dans les prochaines heures. Reste à savoir quel sera le sort des 400 à 500 djihadistes qui sont encerclés. Les djihadistes touristes syriens devraient pouvoir quitter la ville avec leur famille, mais pour les djihadistes étrangers, c'est plus incertain. La coalition internationale ne veut pas qu'ils sortent de Raqqa. À Beyrouth, les explications de Mélanie Houé.
Les derniers djihadistes de l'organisation État islamique auraient quitté cette nuit Raqqa en vertu d'un accord conclu jeudi entre le conseil civil de la ville, administré par les forces démocratiques syriennes et des tribus locales. Mais ce matin, les contours de ce plan d'évacuation restaient flous. Alors que la coalition internationale menée par Washington martelait hier qu'aucun djihadiste étranger ne serait autorisé à sortir de la ville, un membre du conseil civil de Raqqa a affirmé qu'ils avaient le choix de se rendre ou d'être transférés vers la province de Deir ez-Zor, le dernier bastion du groupe terroriste en Syrie. La question des civils prise au piège de la guerre, estimée à 5000 d'après l'ONU, est également en suspens. D'après un journaliste présent sur place et contacté par téléphone, il reste toujours en première ligne des combats qui, d'après lui, continuent de faire rage à Raqqa. Mélanie Houé, Beyrouth, France Inter.
Le bilan continue de s'alourdir en Californie, toujours en proie de gigantesques incendies. Une quarantaine de morts, plus de 200 personnes sont toujours portées disparues. 100 000 personnes ont été évacuées.
8h07, le journal Stéphane Neuf. Stéphane, la cité de l'espace de Toulouse fête ses 20 ans aujourd'hui.
Après-midi, portes ouvertes pour fêter l'événement. Portes ouvertes gratuites. 20 000 personnes sont attendues. La cité de l'espace est devenue le rendez-vous incontournable des passionnés d'aéronautique, d'espace, d'astronomie. Pourtant, Stéphane Iglesis, cette cité a failli ne pas voir le jour.
Ce très beau succès a failli ne jamais voir le jour. Au départ, le bâtiment devait accueillir un musée fondation pour le sculpteur Adam, dont les travaux faute d'argent ont été arrêtés. Le bâtiment a été reconverti avec succès en cité de l'espace. Dans le parc, il y a deux mastodontes, des modules de la station Mir achetés aux Russes et une réplique grandeur nature de la fusée Ariane 5. Pour Jean-Baptiste Desbois, directeur général de la cité de l'espace, ce musée ne pouvait être qu'à Toulouse.
Toulouse, c'est la capitale européenne de l'espace. 25% des emplois du spatial en Europe sont basés à Toulouse et dans sa zone économique, mais elle a un rayonnement national, européen, international aujourd'hui.
La cité de l'espace a 20 ans, et en 20 ans, l'espace est devenu notre quotidien. Marc Pircher, ancien directeur du CNES à Toulouse.
Les gens utilisent des satellites, ils ne se rendent même pas compte. Vous avez la localisation, vous avez des tas de satellites qui sont partout. La météorologie, tous ces aspects-là, regardez la Terre de haut.
Donc dans 20 ans,
je pense qu'on aura fait le tour de la... Il y aura des gens qui auront été faire le tour de Mars qui seront venus. À mon avis, ils ne seront pas encore posés, mais ils auront été faire le tour. Vous aurez sur votre smartphone tout un tas d'informations, puisque les GPS, tout ça, c'est du déplacement. Et on voit bien que le véhicule autonome, etc., etc., c'est des choses vers quoi on va certainement s'orienter en partie.
Du coup, le nombre de visiteurs s'accroît. Cette année, la Cité de l'Espace devrait accueillir pas loin de 350 000 personnes. Un nouveau record. Toulouse, Stéphanie Iglesis, France Inter.
Soleil et chaleur, c'est l'étonnant cocktail météo de ce mois d'octobre. Un cocktail à consommer sans modération encore pour aujourd'hui. Des températures toujours très hautes pour la saison. Et du côté de Marseille, on a décidé d'en profiter au maximum. Sur le vieux port, Nina Valette a promené son micro.
Un temps à surprendre tout le monde, même Joao. Joao est un étudiant en école d'ingénieur à Marseille. Il débarque du Brésil.
En fait, c'est un peu bizarre parce qu'en septembre, il faisait froid. Et là, il fait chaud, du coup, je comprends pas trop.
Un mois d'octobre sous le soleil qui lui donne des envies de farniente.
J'aimerais bien aller à la plage, profiter un peu, mais il faut quand même aller en cours, c'est important.
Pour certains, ce soleil, c'est un peu les vacances qu'ils n'ont pas eues. Avec son t-shirt, Pierre-Emmanuel revit.
Moi, je viens de la banlieue de Paris, donc ça m'a vraiment changé de venir ici et voir le soleil tous les matins, ça met vraiment le baume au cœur. Et donc, moi, j'ai tendance à être un peu déprimé quand il pleut, etc. Mais généralement, je me lève beaucoup plus facilement le matin.
Juste à côté de notre étudiant, René et Mireille, sa femme, lézardent sur un banc. Pour Mireille, les températures du moment sont parfaites.
C'est bien pour ceux qui sont encore en vacances.
C'est vrai que t'es pas en vacances, toi.
Hein oh, ça fait 20 ans que je suis en vacances, moi.
Retraité, étudiant, tout le monde profite. Mais au risque de casser un petit peu l'ambiance, un proverbe dit « Si octobre n'est pas froid, février le sera forcément ».
Voilà Pierre, moi je vous laisse, je vais à la plage. Bonne journée.
C'était le journal de Stéphane Leneuf. C'est le 6-9 du week-end au programme jusqu'à 8h30 ce matin. L'humeur politique de Frédéric Mettezeau dans quelques minutes. Et puis notre invité ce matin à 8h20, Bertrand Badie, professeur des universités à Sciences Po Paris, pour analyser la politique étrangère de Donald Trump. Dernier épisode, vous le savez, Trump qui sape l'accord nucléaire avec l'Iran. Mais tout de suite, l'actualité sportive.